Le journal de l'économie sur Radio Classique.
Et trois titres pour ce 21 février. Le prix de l'essence remonte depuis le début de l'année. Est-ce que cela va continuer? Nous serons en ligne avec Philippe Chalmin dans un instant. Trois ministres en Nouvelle-Calédonie à partir d'aujourd'hui, au chevet notamment de la filière nickel. Et puis le C-919 a pris son envol hier. Cet avion chinois entend concurrencer Boeing et Airbus. Vous l'avez peut-être remarqué si vous avez pris la voiture pour partir en vacances ces derniers jours. Les prix à la pompe sont repartis à la hausse depuis le début de l'année. Plus 4 centimes en un mois pour le samplon 98, 7 centimes pour le gazole. Alors nous sommes en ligne avec Philippe Chalmin, professeur à Paris-Dauphine, président du cercle Cyclope. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que les prix vont continuer à augmenter?
Normalement non. La prévision de Cyclope d'ailleurs pour le prix moyen du pétrole en 2024 est de $80 le baril. En réalité, on va probablement fluctuer tout au long de l'année au hasard des contraintes géopolitiques entre 70 et $90. Là, on paye probablement quand même un petit peu les tensions en mer Rouge, les quelques tensions aussi autour du détroit d'Ormuz. Donc, bon, il suffit d'une petite excitation pour qu'on prenne $1 ou $2. Ça ne va pas très très loin. Surtout que, normalement, on est sur un marché qui va être excédentaire en 2024, en ce sens que la demande de pétrole croîtrait moins que l'augmentation de la production en provenance de ce qu'on appelle les NOPEP, c'est-à-dire États-Unis, Brésil, Guyana pour l'essentiel.
Alors Bercy a annoncé qu'il n'y aurait pas cette année de chèque carburant pour ceux qui utilisent leur voiture pour aller travailler. Ça représente 600 millions d'euros d'économie. Est-ce que c'est finalement logique vu le contexte?
Oui, disons que il est assez logique qu'on sorte là du quoi qu'il en coûte traditionnel. On avait, vous vous en souvenez, baissé à une époque de 20 centimes le prix du carburant. L'histoire du chèque des 100 euros, finalement, il a été assez peu ressenti dans la mesure où c'était quand même assez complexe à mettre en œuvre. Et puis, finalement, ça ne changeait pas véritablement la face du monde. À la limite, l'engagement le plus solide et celui qui semble perdurer, c'est quand même celui de Total, de ne pas dépasser les 1,99€, quelque carburant que ce soit, dans quelque station que ce soit. Ça aura été relativement efficace puisque déjà, on voit quand même quelques stations en autoroute ou en intérieur de ville qui dépassent les 2€.
Alors Philippe Chalmin, quand on voit les conflits, la géopolitique du pétrole, est-ce qu'il faut s'habituer à ces prix élevés du carburant?
Ah ben ça, c'est l'interrogation majeure. La mer Rouge, je pense que là, on en a vu l'essentiel des conséquences, mais un surcroît de tension avec l'Iran pourrait à ce moment-là avoir des conséquences relativement fortes. Néanmoins, j'aurais tendance à dire que des tensions géopolitiques, il y en aura, mais les principaux intéressés ont trop besoin de leurs ressources en pétrole pour ne pas pousser le bouchon trop loin. Qu'il s'agisse de l'Iran, qu'il s'agisse de la Russie, on verra ce qui va arriver au Venezuela, bien entendu, mais globalement, il me semble que il faudrait vraiment une aggravation considérable des tensions géopolitiques pour que le pétrole puisse éventuellement franchir à nouveau la barre symbolique des $100 le baril.
Merci Philippe Chalmin, président du cercle Cyclope et professeur à Paris-Dauphine. Si vous aviez prévu de prendre le train plutôt que la voiture pour partir ou revenir de congé ce week-end, la SNCF annonce un trafic quasi normal vendredi et samedi alors que les aiguillères ont prévu de se mettre en grève. On parlait de la fin du quoi qu'il en coûte. La révision à la baisse ce dimanche des prévisions de croissance pour 2024 oblige l'État à revoir à la baisse les dépenses pour parvenir aux 10 milliards d'économies annoncé par le ministre Bruno Le Maire. L'aide MaPrimeRénov va être amputée d'€1 milliard de budget. Une annonce qui inquiète chez les professionnels du secteur de la rénovation énergétique. François Deroche, président de l'Association française pour les pompes à chaleur.
On s'interroge en fait sur les effets quand même d'une telle annonce sur la confiance des ménages, qui est déjà pas très enclin à se lancer dans des travaux de rénovation énergétique. On le sent là déjà depuis le mois de septembre. On a une forte baisse, on va dire, du marché des pompes à chaleur. Donc c'est un petit peu quand même inquiétant. Il faut de la stabilité sur les aides pour que nos entreprises puissent planifier des investissements pour structurer, recruter les compétences nécessaires pour garantir la qualité des installations.
Un propos recueilli par Nina Droff. À deux jours du salon de l'ouverture du salon de l'agriculture à Paris, conférence de presse de Gabriel Attal. Ce matin, le Premier ministre doit faire de nouvelles annonces afin de tenter d'apaiser la colère du secteur. Il présentera les grandes lignes du futur projet de loi agricole dans le Figaro. Ce matin, il promet notamment un arrêté pour déclarer toutes les filières agricoles métiers en tension afin de recourir, elles puissent recourir plus facilement à la main-d'œuvre étrangère. Afin de maintenir la pression sur l'exécutif, le FNSEA et les jeunes agriculteurs ont prévu un nouveau cortège vendredi soir à Paris avec campement devant les portes du salon. Il s'agit évidemment de la FNSEA. Les pêcheurs du golfe de Gascogne, eux, doivent attendre pour la plupart une journée de plus pour reprendre leur activité. Activité qui était interrompue depuis un mois afin de protéger les dauphins. La plupart des bateaux n'ont pas pu reprendre la mer ce matin à cause des mauvaises conditions météorologiques. 6h55, trois membres du gouvernement en visite pour trois jours en Nouvelle-Calédonie à partir de ce mercredi. Marie Guévenoux, nouvelle ministre déléguée aux Outre-mer, accompagnée par ses collègues de l'Intérieur et de la Justice, Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti. Les dossiers épineux ne manquent pas, parmi lesquels celui du nickel. L'archipel abrite 7 à 10% des réserves mondiales de ce minerai, stratégique pour la construction de batteries automobiles. Mais la semaine dernière, le groupe suisse Glencore a mis à l'arrêt l'usine dite du Nord. Elle cherche désormais un repreneur. Zoé Pallier, c'est donc toute la filière locale qui est au bord de la faillite.
Sur les trois usines de nickel qui font vivre l'archipel, une seule pour l'instant est mise en sommeil. Mais les deux autres font face aux mêmes difficultés, souligne Olivier Sudry. Il est économiste spécialiste des Outre-mer.
On fait fondre le nickel en utilisant de l'énergie, notamment du charbon. Donc les coûts de production sont élevés. Sur un marché nickel qui s'est effondré, donc des prix de vente bas, on a aussi les coûts de la main-d'œuvre qui pénalisent très clairement la Nouvelle-Calédonie par rapport notamment à l'Indonésie qui aujourd'hui est devenue le leader sur le marché du nickel.
Les industriels dénoncent aussi un blocage politique. Malgré la forte demande, les indépendantistes kanak limitent les exportations de nickel brut non transformé.
Ça semble être un calcul extrêmement préjudiciable à très court terme, puisque ce qui pourrait sauver les opérateurs aujourd'hui, c'est l'exportation. Mais d'un autre côté, à plus long terme, ce qui risque d'arriver, c'est que les exportations prennent le pas sur la métallurgie et que finalement, la Nouvelle-Calédonie ne soit qu'un exportateur de minerais, la valeur ajoutée se faisant ailleurs dans le monde et non pas en Nouvelle-Calédonie.
Dans ces conditions, trouver un repreneur pour l'usine déjà à l'arrêt s'annonce délicat. Il pourrait s'agir d'investisseurs chinois, ce qui mettrait un coup à l'ambition française de monter une filière de batteries électriques 100% européenne.
Zoé Pallier, on parlait des investissements chinois. La Chine a présenté hier son plus gros avion de transport de passagers au Salon international de Singapour. Après le A de Airbus et le B de Boeing, il va falloir s'habituer au C de Comac, livrée blanche, verte et bleu marine pour ce C-919. Pour l'instant, un avion qui effectue seulement des vols régionaux, mais à plus long terme, Céline Cajoulis, il espère voler des parts de marché aux deux géants occidentaux.
Avec ses faux airs d'Airbus, le C-919 est un monocouloir qui permet d'accueillir jusqu'à 192 passagers avec un rayon d'action de plus de 5500 km et il se place clairement comme un concurrent de l'A320neo et du 737 MAX. Le moyen courrier est d'ailleurs le segment qui compte le plus de ventes au monde. Pour l'instant, l'avion est uniquement homologué pour voler en Chine, ce qui représente tout de même un cinquième du marché mondial de l'aéronautique. Aucune grande compagnie mondiale n'a encore passé commande, mais il est à parier que dans la prochaine décennie, il n'y aura pas que des compagnies chinoises qui l'exploiteront, même si on ne connaît ni son prix ni le niveau de commande passé. Le directeur d'Airbus commercial qui a vu l'avion dit qu'il a été surpris par la qualité de l'appareil, proche des standards mondiaux. Un avion qui est quand même construit à 40% grâce à des composants fournis par les pays occidentaux. Mais l'industrie chinoise ne va pas tarder à se saisir du dossier, qui est d'ailleurs suivi de près par les autorités politiques du pays.
Céline Cajoulis, nous sommes en période d'annonce des résultats 2023. 23% de hausse du bénéfice net pour Carrefour l'année dernière. Le distributeur les a présentés hier. Ces résultats, 1,66 milliard d'euros de bénéfices, notamment grâce à la cession des activités à Taïwan. Les marchés financiers, le Dow Jones a terminé en baisse de 0,17% hier, moins 0,92% pour le Nasdaq. Le CAC 40 a en revanche atteint un nouveau record, près de 7800 points portés notamment par Air Liquide. À Tokyo, le Nikkei est actuellement en baisse de 0,33%. Il est 6h58 sur Radio Classique. C'est l'heure de la météo.